www.radio-g.fr.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il est facile de dire « Ah, salauds de pauvres, connards de pauvres, qui vont voter Front National après avoir voté communiste ou socialiste. » Mais enfin, qui souffre? Qui est dans la merde actuellement? Pas les bobos, les gens qui souffrent, c'est la classe ouvrière, ce sont les travailleurs, les employés, ces gens-là souffrent atrocement. Ces gens qui souffrent, ben, ils expriment leur colère. Certes, c'est une façon bête, stupide de manifester sa colère que de voter pour la droite, pour échapper à la droite. Bon, mais moi, je mettrai pas au même titre les gens qui les trompent et ces gens qui sont trompés. Je les mettrai pas dans le même sac. Il est facile hein, d'être intelligent, de voir le danger de l'extrême droite, anti-humaniste, etc. Mais l'humanisme, pour des gens qui sont pauvres, ça n'a pas de sens.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Pour aujourd'hui, la rediffusion d'une spéciale programme économique du Front National. Émission que nous avons diffusée pour la première fois en 2011, lors du 14e congrès du FN qui s'est tenu à Tours. Congrès où Le Pen père a passé le pouvoir à sa fille. Il m'a semblé intéressant d'écouter à nouveau ce que nous disions en 2011 au sujet du programme économique du Front National de l'époque, aujourd'hui devenu Rassemblement. Et pour parler d'économie et fascisme à la française, deux invités. André, notre prof d'histoire géo, et Michel, prof d'économie. On rembobine la bande et on retourne vers 2011.
Bonsoir, notre invité ce soir est Jean-Marie Le Pen.
Comment ?
Le président du Front National. Bonsoir et bienvenue à vous.
Pardon ?
Alors, le FN a longtemps fait campagne contre l'immigration. Est-ce que vous vous ciblez l'islam aujourd'hui vous-même ?
Écoutez, la présence immigrée dans notre pays, ça ne me gêne pas du tout.
Non, mais bien sûr.
Nous sommes favorables à l'immigration de l'immigration. Et donc, je suis pour la religion musulmane. Qui souffre actuellement. La burqa est évidemment dans ce domaine-là la défroque nationale ou nationaliste.
Comment est-ce que vous reconnaissez un Français? C'est la couleur de la peau, c'est ça?
Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils sont Français?
Une mission s'apprête à rendre sa copie sur le port de la burqa.
Oui,
et vous, Jean-Marie Le Pen?
Eh bien, je suis un homme de sang mêlé qui porte la burqa. Dans les piscines, etc. Et bien sûr, il faut de la viande halal pour le Front National.
Mais il a besoin de vous, le Front National, pour vivre.
Non.
Votre fille, c'est pas elle qui doit prendre la relève maintenant.
Non, mais écoutez, c'est tout à fait dérisoire de dire ça. Marine est dramatique. Ce n'est pas parce que c'est ma fille que je ne la crains pas. Mais je vous signale que Marine est un fantasme.
Vous avez perdu en 2007, à la faveur de la présidentielle, la moitié de vos électeurs qui ne sont pas revenus au fond.
Non, nous avons perdu. Oui, c'est vrai. Oui, les...
La voix off
et une polémique.
Cette vaste arnaque.
Il s'agit d'un trucage.
Dérisoire.
Chers potes de maître mère, c'est en cette période des fêtes de folle que je suis heureuse de pouvoir vous présenter mes meilleurs vœux de maladie, de pauvreté, de précarité. Pour vous et tous vos proches qui craignent, qui ne sont pas les nôtres. Je souhaite aussi une terrible crise pour la France, à tout point de vue. C'est pour cette raison que je voudrais avoir une pensée particulière envers tous ceux qui souffrent de bonheur et de prospérité. C'est pour cette raison que je vous invite à retrouver notre fierté d'être folle et bonne année. Trop tard. Oui, trop tard.
Bonjour tout le monde, La Voix Off reportage avec vous pendant une heure pour une série d'émissions dédiées à l'extrême droite. Bonjour Michel.
Bonjour.
Prof d'économie, prof de droit.
Toujours en stéréo, notre prof d'histoire préférée. Salut André.
Bonjour à tous.
Nous sommes ensemble pendant une heure et pour démarrer cette émission et se mettre dans le ton, un peu de musique.
Bonsoir Jean-Marie Le Pen.
Bonsoir.
Et merci d'être venu répondre à nos questions.
C'est tout à fait naturel. Moi je suis le chouchou des médias parce que moi je suis trimaran. Ça me fait rire.
Oui, mais vous, si ça, du coup, la meilleure candidate pour le Front National, ce serait pas Marine Le Pen.
Mais non, parce que Choufa, ça ne marchera pas.
Choufa,
les Français ne sont pas aussi sots que ça. Choufa, c'est une formule nord-africaine.
Pchit.
Oui, ça vaut pchit, si vous voulez.
D'accord.
Parce que moi, je suis immigré, mais trimaran. Et puis je suis un petit peu quand même musulman, bien qu'étant d'extrême gauche, n'est-ce pas? Car moi je suis archéo-marxiste, modernisé, un peu, pas trop, juste un peu. Et puis moi je suis dans une position schizophrénique, totale. Parce que je crabouillais la rogne dans la rue, dans le métro, dans les trains, pendant des années. Rogne, n'est-ce pas? Où un certain nombre d'oignons relèvent la pastille Valda.
La voix off
et une polémique.
Il y a peut-être un certain nombre de boomerangs qui sont lancés comme cela, à droite et à gauche. Ça me fait rire.
La voix off reportage avec Michel et André, respectivement, nos profs de droit et d'éco préférés et profs d'histoire préférés. Toi, tu as fait de l'histoire aussi, Michel?
J'ai eu la chance de suivre une formation à l'école de sciences politiques et on fait tout là-bas. Et l'important, c'est de savoir, pour ces gens-là, parler de tout. Moi, je dis à condition de savoir de quoi on parle. Et surtout, l'important, c'est que ça sert à tout. Or, justement, pour parler d'extrême droite, il est important, comme André va nous le montrer tout à l'heure, d'avoir une vision historique, parce que l'extrême droite française a ses spécificités, mais là également ses caractéristiques économiques, juridiques. Il faut reconnaître que l'extrême droite est une vision du monde, l'important étant de savoir exactement laquelle.
Est-ce que le Front National est un véritable problème ou ne serait qu'un symptôme?
Non, c'est les deux. Hein. Il n'y a pas de contradiction entre les deux hypothèses. Enfin, c'est un symptôme d'une crise sociale et politique profonde, et en même temps, ces gens proposent une solution. Et cette solution, elle est inquiétante, évidemment.
L'intérêt et l'habileté du fondateur du Front National a été de savoir détecter d'abord qu'il y avait toujours une extrême droite en France, ensuite qu'il y avait des inquiétudes malheureusement réelles sur lesquelles il pouvait s'appuyer, mais il a su les exploiter à son profit, car derrière le fait que le Front National est un mouvement politique, chose qu'il ne faut pas occulter, il ne faut pas oublier aussi que le Front National, c'est l'entreprise d'un homme qui sait aussi s'en servir à des fins et dans son intérêt personnel. C'est ça qu'il ne faut surtout pas oublier si on veut comprendre d'une certaine manière le destin politique du Front National. On a aujourd'hui, par exemple, c'est vu dans le discours de Marine Le Pen, une volonté de se maintenir en tant que distinction. Certaines personnes commençaient à envisager l'hypothèse d'un Front National qui pourrait se diluer, voire s'allier un peu à l'italienne avec une droite française qui est présentée comme décomplexée et qui donc, je dirais, s'assume franchement comme antisocial du côté du patronat, appuyant les riches et s'appuyant sur des sentiments d'insécurité, ce qui est d'une certaine manière le fonds de commerce d'extrême droite. Et c'est justement parce qu'ils ont eu l'angoisse de se faire, grosso modo, piquer leur clientèle que la famille Le Pen père et fils est en train d'amorcer ce qui, dans leurs yeux, est une saine réaction au moment où le gouvernement est en situation de faiblesse pour récupérer leur fonds de commerce. Car pour eux, c'est un fonds de commerce, même si à côté de ça, il y a une partie de l'opinion française qui a des pensées d'extrême droite et une autre qui traduit son mécontentement aujourd'hui en votant à l'extrême droite parce qu'elle considère que c'est le moyen le plus efficace de rendre son mécontentement visible, puisque le Parti communiste a aujourd'hui pratiquement disparu en tant que parti protestataire.
Vous voulez changer de sonnerie?
Oui.
Téléchargez
Jean-Marie Le Pen
sur votre téléphone portable.
C'est irrésistible.
Envoyez le mot
Choufa
et recevez la sonnerie. Sur votre mobile, tapez
Crabouillé, rogne.
99 euros par envoi, hors coût d'un SMS.
Comment?
100 SMS offerts pendant un mois, vers tous les débiles.
C'est bien.
La voix off.
Et une polémique.
Il s'agit d'un trucage.
C'est scandaleux.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Quelle vision de l'Europe défendez-vous?
Une Europe de la barbarie. Une Europe qui permette à chaque État-nation de prendre le pouvoir contre les peuples. Un super État totalitaire, dramatique, qui va accuser de xénophobie l'UMP, le PS, le MoDem. Mais surtout, l'Union européenne a une vision, une idéologie qui consiste à supprimer des chômeurs immigrés de plus en plus sauvages. Voilà.
Bien que M. Le Pen soit votre père, êtes-vous toujours en accord avec ses propos?
Ah, pas du tout. Je dis à tout le monde que Jean-Marie Le Pen, il ment aux Français, et voilà. Et je crois que Jean-Marie Le Pen a envie de mourir pour faire du mal au Front National. Oui. Eh bien, moi, je considère que Jean-Marie Le Pen n'est pas viable sans contrôle. Ça vous réjouit? Ah oui, incontestablement.
C'est un montage.
Le Front National a un fonds de commerce avec une Marine Le Pen qui fait super VRP aux dents blanches, hein, André. Avec Marine Le Pen, il n'y a plus de vieilles blagues douteuses pour faire rire les vieux fachos français, hein, plus de dur à four crématoire et de choses comme ça. C'est... Aujourd'hui, on est dans du fascisme ou de l'extrême droite light. On est dans le light, quoi. On est dans le new age.
Oui, mais je pense qu'il y a eu un réel effort du Front National et de la fille Le Pen pour faire passer la politique Le Pen sans l'épouvantail antisémite, l'épouvantail nazi du paternel.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute...
C'est un point de détail.
Non, mais est-ce que
6 millions de morts.
Est-ce que vous attirez... Non, pardon.
J'ai mal compris, mais...
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est que...
Juifs.
Oui.
La Deuxième Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail?
Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas?
Oui, c'était pas un point de détail quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale.
Cependant, je pense qu'il n'y a rien de changé sur le fond. L'idéologie de Marine Le Pen est la même que celle de son père et des troupes, des militants et des responsables du Front National. Je pense que c'est sur cette idéologie de fond, hein, sur ce fond dur, qu'il faudrait réfléchir, discuter, et non pas sur l'image, la façade que ces gens offrent. Je pense que ce serait d'ailleurs le travail des journalistes, plutôt que de faire du sensationnel, du réactif sur les phrases médiatiques, etc.
André, si les journalistes nous informaient, ça se saurait.
Mais ça nous manque cruellement. Effectivement, il manque de gens qui fassent de véritables enquêtes, de véritables sciences politiques, et disent qui sont ces gens-là, ce qu'ils veulent, etc. Il ne s'agit pas de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, mais d'exhumer sous les scories des phrases et des apparences ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui sous-tend le Front National? Quelle est l'histoire de ces gens-là? Je voudrais d'ailleurs étudier si les journalistes effectivement faisaient un travail de fond sérieux. Ils étudieraient les parcours, les trajectoires de ces gens du Front National. Ils feraient un travail, comme disent les historiens, de prosopographie, c'est-à-dire de destin individuel qui rejoignent l'histoire. Parce que ces gens ne sont pas neutres, hein, ils ne viennent pas comme ça, ils ne sont pas des comètes qui viennent... Ils ont une histoire, ils ont des liens, ils ont un héritage. Parce que quand ces gens-là seront aux affaires, car il semble qu'ils aient un destin politique, hélas, quand ils seront aux affaires, c'est ces gens-là qui vont nous gouverner avec leur vécu, avec leur histoire, leur rancune, etc. Or, il faut savoir d'où ils viennent. Alors, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Michel sur le mot extrême droite ou droite extrême, ou il faut pas se laisser enfermer dans des terminologies contraignantes. À travers des mots différents, il faut essayer de voir ce qui était le dénominateur commun de cette droite. Certains historiens ont appelé cette droite la droite révolutionnaire. Quel est le fond idéologique de cette droite qui se prétend révolutionnaire? Parce que c'est ça toute l'ambiguïté. Ces gens-là ne tiennent pas à toucher aux structures de la société, ni à la propriété, ni aux rapports sociaux, ni à quoi que ce soit. Ce sont des gens qui, sur le plan économique, ont un discours de droite assez banal. Cependant, ils prétendent changer révolutionnairement la société. Et en quelque sorte, ils affichent un certain radicalisme. Et en ça, ils rejoignent la droite ultra-libérale qui également prétend faire une révolution. Si vous regardez bien, en fin de compte, la droite libérale conservatrice traditionnelle française, disons incarnée par l'UMP, depuis 15 ans, elle opère une véritable révolution sur le plan économique et social, en bazardant le système de protection sociale, en mettant en cause des choses qui avaient été établies depuis le Front Populaire et la Libération, et en modifiant réellement la société française. Ils ont une action authentiquement radicale. Il n'est pas étonnant qu'ils rejoignent la droite radicale, révolutionnaire, qui prétend également changer la société et l'homme, qui ont une vision de l'homme.
Je pense, je ne vous le cache pas avec émotion, au fric, qui mérite notre amour et notre respect. Je me battrai pour le fric, parce que le fric,
c'est chic.
À tous ceux qui veulent du fric, je dis du fond de mon cœur, le fric, pour moi, c'est un devoir. Mesdames et messieurs, vive la République et vive la France.
Alors ne soyez pas surpris si des informations de cette émission datent un peu, c'est normal. Nous écoutons la rediffusion d'une spéciale Front National diffusée pour la première fois en 2011. Toujours avec Michel et André, le Front National propose des solutions économiques pour nous sortir de la mouise. Ce programme, quel est-il ?
Il est celui, dans leurs yeux et dans le cadre de cette pensée révolutionnaire, d'induire une saine réaction pour restaurer l'économie de la France sur des bases saines. On n'en est pas tout à fait à ce que disait le maréchal Pétain quand il disait que la terre, elle ne ment pas. Mais on a cette affirmation de façade de dire il y a une industrie française, il y a un travail français, le travail doit rester en France. Ça découle évidemment sur deux variantes. La première variante étant de dire il faut éviter que les étrangers ne viennent voler le travail des Français. Et la deuxième, il faut que les entreprises françaises restent françaises et que les Français consomment des produits français fabriqués par des entreprises françaises. Naturellement, c'est un discours de façade. Tout simplement, d'abord, parce que on ne peut pas faire de politique sans avoir l'appui des grandes entreprises. Les grandes entreprises françaises aujourd'hui sont des entreprises mondialisées. Ces entreprises mondialisées n'ont aucun intérêt à ce qu'on mette en place des barrières nationales, à ce qu'on essaye de faire un soi-disant nationalisme économique. Évidemment, ce faisant, on se fait bien voir de la partie traditionnelle de l'électorat du Front National, qui est le petit commerçant, le petit artisan, qui part du principe qu'il mouille sa chemise, qu'il travaille, qu'il n'y a pas de raison pour engraisser des fonctionnaires oisifs, et qui se dit qu'il sera mieux défendu par des gens qui parlent son langage et qu'il comprenne. Et enfin, évidemment, c'est une façon de se faire bien voir, malheureusement, d'un certain nombre de personnes qui sont au chômage et qui continuent à croire cette antienne du Front National qui consiste à dire qu'il y a 2 millions d'étrangers en France et qu'il y a 2 millions de chômeurs en France et que si donc on mettait 2 millions d'étrangers à la porte, on aurait 2 millions d'étrangers en moins. Mais encore une fois, ça, c'est le discours. La réalité de la prise du pouvoir par l'extrême droite quand elle arrive aux affaires est toujours systématiquement la suivante. Primo, complicité totale avec le grand patronat enrichi qui, évidemment, finance le mouvement. Secondo, mise sous contrôle des travailleurs sous prétexte que les anciens syndicats sont systématiquement corrompus, dévoyés, etc. Et qu'il est donc nécessaire de refonder les choses en créant de nouveaux syndicats qui sont naturellement contrôlés par un parti unique. Et puis tertio, c'est le contrôle, justement, souvent de façon musclée, de la classe ouvrière qui n'a plus qu'un seul droit, c'est de se taire et de travailler là où on lui dit de travailler. Ainsi, Le petit bouquiquier est satisfait et il collabore dès demain à un pouvoir dont il a l'impression qu'il applique le programme qu'il souhaite avoir, sans voir qu'en réalité, le petit est opprimé encore une fois au service du grand.
Le travail dans la vie, c'est aussi gratifiant, c'est aussi utile, et que le fait de travailler plus n'est quand même pas une malédiction.
Travailleurs, mes amis, ayez sans cesse présent à l'esprit la certitude. Vous travaillez encore pour la France. Maintenant, tous ces chômeurs d'hier sont devenus des hommes, conscients de leurs devoirs. Tous travaillent d'un même cœur pour notre patrie commune.
Le problème, encore une fois, c'est de savoir s'il y a une volonté politique. Le problème étant que, dans un univers mondialisé comme le nôtre, un pays peut toujours essayer tout seul d'imposer certaines décisions, de préserver un certain nombre de choses. Ce serait beaucoup plus facile si cette intention était manifestée au niveau de plusieurs pays au lieu d'un seul. Alors que malheureusement, le grand patronat au niveau mondial, et plus particulièrement au niveau européen, lui n'a pas ce problème. Ça fait très longtemps qu'il s'est internationalisé, ça fait très longtemps que notamment dans le cadre de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle s'est construite, il a su jouer les pays les uns contre les autres, les stratégies fiscales, économiques, budgétaires des uns contre les autres. Ils ont su admirablement, si on regarde la dernière crise, se faire subventionner lorsque leurs banques ont failli tomber en faillite. Et ils savent aujourd'hui mettre des gouvernements à genoux au nom d'une rigueur budgétaire qu'ils ont été incapables de s'appliquer à eux-mêmes dans la gestion privée de leurs entreprises. Donc on est dans un double discours ambivalent. Mais là où le discours de l'extrême droite est trompeur, c'est justement, comme le disait André tout à l'heure, lorsque l'extrême droite se pose dans un discours révolutionnaire en disant « Avec nous, ce genre de choses s'arrêtera. Avec nous, les petites gens seront respectés. Avec nous, le travailleur qui s'implique, qui travaille, sera payé à la sueur de son front. Et nous saurons restaurer un certain nombre de valeurs qui sont aujourd'hui dévoyées. » On n'en est pas encore à employer le terme de cosmopolitisme, mais je ne serais pas étonné qu'il revienne bientôt. Or, le soi-disant cosmopolitisme, notamment appliqué au patronat, je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde la liste, quand on arrive à l'avoir, des actionnaires de Total ou des actionnaires d'autres grands groupes tels que LVMH, ce sont des entreprises internationalisées qui l'ont voulu, qui l'assument et qui ne se soucient pas particulièrement de l'économie française, pas plus que de l'économie italienne ou de l'économie japonaise. L'important pour eux, c'est leur taux de profit. Et le reste n'a aucune importance. Sur ce point-là, on peut dire qu'eux, au moins, sont honnêtes.
Il y a un facteur très lourd dans l'actuelle progression de l'extrême droite française. C'est justement la politique de la gauche socialiste et son échec, ou plutôt les abandons graves de la gauche à partir, on va dire, de 83. Je pense que le choix de la politique libérale par le Parti Socialiste a été fait dès 83. À partir de ce moment-là, rien ne distingue vraiment la politique de la droite française de la politique du Parti Socialiste sur le plan économique et social.
Ah, alors tu vois bien quand Marine Le Pen parle de l'UMPS ?
Absolument, c'est d'ailleurs le terreau sur lequel prospère l'extrême droite. Une véritable vérité, c'est-à-dire que la majorité des forces politiques en France, UMP, centristes, Parti Socialiste, une bonne part des écologistes, acceptent cette politique libérale, cette mondialisation dans laquelle on met à peu près tout, et cette politique européenne. Dans le cadre de l'Europe et de l'acte unique et de Maastricht, etc., qui a été une œuvre des socialistes français aussi, on fixait la France dans un cadre d'économie libérale mondialisée, sans frontières. On en voit les conséquences, effectivement. Ça rend extrêmement difficile, non pas impossible, mais ça rend difficile une solution économique, sociale en France, parce qu'on a coincé la France dans une nasse avec des clapets de non-retour. C'est comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement. Donc, le Front National a tout à fait raison de dire qu'il y a une collusion parfaite entre les forces politiques dont j'ai parlé précédemment. Bien sûr, est-ce que la question en quelque sorte sous-jacente, c'est est-ce que le Front National pourrait faire autrement ? Non, il y a peu de chances qu'il fasse quelque chose de radicalement différent. Cela dit, il est vrai que le problème politique en France se pose de savoir si la France va continuer à se lier les mains dans une Europe ultra-capitaliste, libérale, mondialisée, etc., ou si elle va se dégager en partie des contraintes que lui imposent les traités européens, C'est une vraie question politique. Considérant que ces traités européens ont tous les inconvénients pour la France sur le plan économique et aucun avantage, contrairement à l'Allemagne d'ailleurs, qui en tire beaucoup d'avantages, est-ce qu'il faut continuer dans ce domaine-là? Et à partir de ce moment-là, le Front National peut tirer effectivement profit de cette posture anti-européenne pour capter une quantité de Français qui se rendent compte que bon bah on s'est mis sous la dépendance complète du grand capital et de la finance internationale sans aucun moyen de changer quoi que ce soit. En fin de compte, on est en train d'aligner les conditions du travail en France sur les conditions du travail en Inde et en Chine. À un moment donné, c'était il y a quelques années une boutade, on disait il va falloir attendre que ces gens-là arrivent à notre niveau pour qu'on fasse progresser les conditions sociales. En fait, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On attend tranquillement, enfin si on peut dire tranquillement, au prix d'une misère effroyable, que le Bangladesh soit au niveau de rémunération de la classe ouvrière en France. Enfin, c'est consternant, quoi. Alors évidemment, dans cette situation-là, le Front National en tire le plus grand profit. Il est sûr qu'il se présente comme un parti qui veut changer radicalement les choses. Il dénonce la situation économique et sociale. Il n'a que l'embarras du choix, hein, dans les scandales économiques, financiers, sociaux en France, que l'on doute de sa possibilité de changer quoi que ce soit dans ce domaine-là, ou même de sa volonté de le faire. C'est une chose, mais il n'en reste pas moins que c'est un puissant argument pour que ces gens-là gagnent des électeurs, gagnent des voix et deviennent de plus en plus incontournables pour la droite. Alors ce qui est grave, évidemment, c'est que derrière ce discours, je dirais, économique et social de circonstance, il y a une vision de l'humanité, il y a une vision de la société, etc., qui est derrière, et qui est toujours celle de l'extrême droite française depuis plus d'un siècle au moins. Là, c'est grave. Parce qu'à l'occasion, je dirais à la faveur de cette crise économique et sociale dans laquelle nous ont plongé la majorité des partis politiques en France, on voit se pointer à nouveau, encore, l'extrême droite en France. Et ça, c'est insupportable.
L'Europe, oui, c'est le oui ou le non.
Oui,
car... Mais on ne peut pas dire oui.
Non, surtout pas, il y a
oui. Non, non, oui, non,
oui.
Oui,
oui,
il faut voter non.
Il ne faut pas voter
oui.
Oui, évidemment, évidemment, oui.
Oui, oui,
non,
oui. Non, non. Oui. Voter non, ça veut dire quoi?
Non,
oui,
non.
Et si je dis oui, tout le monde avait dit non.
Oui,
oui ou non?
Du oui,
du non.
Non, non.
C'est pas parce que le non montait dans les sondages.
Si.
C'est pas le paradis si vous votez oui.
Non, non.
Mais si
non,
vous votez non, non, ils ont voté non partout, non, tout le
non,
temps.
On va leur dire, ah ben non,
excusez-moi.
Non,
non,
non, non,
non.
Je respecte les gens qui sont contre l'Europe. Et je vote non à la Constitution. La voix off
est une polémique.
Est-ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le feuilleton de la France qui pense et qui croit?
Des cons.
Maintenant, vous savez tout et vous pouvez juger vous-même.
Quels sont les deux moments de l'histoire de France où l'extrême droite s'est développée? La fin du 19e siècle, les années 1880-1890, nous sommes dans des années de dépression économique et de crise. Et les années 30, avec la crise mondiale. Mais c'est pas un hasard. C'est bien sûr pas un hasard du tout. Il faut qu'il y ait en quelque sorte une crise profonde de la société bourgeoise, libérale, appelons-la comme on veut, capitaliste, des sociétés de marché, etc., pour que ces gens-là prospèrent. Et alors, ils se proposent dès le départ comme étant une solution ni capitalisme, ni socialisme. C'est toujours, toujours, c'est ça qui caractérise, à mon avis, la droite révolutionnaire en France. Ces gens se présentent comme étant une alternative au choix socialisme ou capitalisme. Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils prétendent n'être ni le socialisme abhorré, car ces gens sont foncièrement, violemment anti-marxistes, anti-communistes, etc., anti-socialistes, et en même temps, ils se prétendent anti-libéraux, et ils sont anti-libéraux à bien des égards, ce sont des anti-libéraux. Ils avancent d'autres solutions qu'ils prétendent tout à fait originales, et ils sont très séduisants. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de penseurs, dans ces grands moments-là, sont attirés par les solutions qu'ils préconisent. Des gens qui sont dégoûtés du système libéral, de la démocratie bourgeoise traditionnelle et de ses résultats. Et des gens qui ne veulent pas pour autant adhérer au projet socialiste, au projet communiste, etc. Ils ont une troisième voie. Cette troisième voie, c'est ces gens-là. Et ils sont donc extrêmement attractifs. Et c'est pour ça qu'il faut les combattre sur le fond.
toujours au cœur de la rediffusion de cette spéciale Programme économique du Front National, émission qu'on vous a proposée pour la première fois en 2011. Michel, je me retourne vers toi. Sur 9 conneries que peuvent dire les gens du Front National, il y a forcément toujours un constat qui est ancré dans du réel et donc qui sonne vrai. Moi, dans le discours de Marine Le Pen, il y a un truc que je peux trouver extrêmement séduisant, par exemple, c'est la notion de protectionnisme. Pourquoi est-ce qu'on se ferait pourrir le marché français de produits fabriqués par des esclaves qui n'ont pas les droits des travailleurs français? Parce que le travailleur français, il coûte trop cher parce qu'on lui paye de la sécu, on lui paye des retraites, on lui paye sa santé, etc. Alors que l'esclave, on n'a pas à lui payer tout ça. Donc, il fabrique des produits de consommation achète moins cher que ceux manufacturés par le travailleur français. Alors, Marine Le Pen arrive sur son cheval de Zorro et nous dit rétablissons des barrières protectionnistes.
Alors, l'idée d'un retour au protectionnisme, d'un protectionnisme régionalisé, qui consisterait à dire, grosso modo, on ne va quand même pas faire jouer ensemble des gens qui jouent au foot en division 1 et des gens qui jouent au foot en division d'honneur, elle est assez ancienne déjà, et nous avons un économiste qui s'appelle Maurice Allais, qui n'est pas d'extrême droite, bien qu'il fût de droite, et qui l'avance depuis facilement 10 ans. Il a d'ailleurs eu un prix Nobel. Et là où il a tout à fait raison, là aussi, qui pourrait aller contre, c'est de dire qu'effectivement, face à des pays qui ne pratiquent pas les mêmes normes sociales que la France ou l'Italie ou l'Allemagne ou l'Espagne, il faut absolument mettre en place des barrières douanières. Sauf que, vu la structure actuelle du commerce mondial et de l'économie mondiale, primo, aucun pays ne peut vivre totalement en autarcie. Secondo, l'idée d'un, disons, protectionnisme régional mis en place par exemple au niveau de l'Europe, comme ce que font d'ailleurs les Américains au niveau du continent nord-américain, serait parfaitement pertinente. Prétendre l'instaurer au niveau purement national est primo une parfaite hypocrisie. Parce que on peut toujours imaginer que la France dise « la France va fermer ses frontières ». Combien de temps allons-nous tenir ? Certainement pas longtemps. Ou alors il faut carrément reconnaître qu'on sort de l'Europe. Mais d'un autre côté, soyons clairs, c'est l'Europe sur son fonctionnement actuel qui permet par exemple l'existence d'un pays comme l'Irlande. Quel beau pays l'Irlande ! L'Irlande qu'on nous a vendu comme modèle pendant plus de 10 ans, nous disant que les Irlandais avaient tout compris, qu'il fallait effectivement baisser les impôts sur les sociétés, diminuer les charges sociales pour le financement de la protection sociale, que l'économie ne s'en porterait que mieux et qu'ainsi la prospérité allait inévitablement tomber de façon bénite sur la tête de ces braves Irlandais qui en plus sont catholiques. Aujourd'hui, l'Irlande est à genoux. C'est grâce aux banques allemandes qui détiennent 85% de la dette irlandaise et qui ont décidé qu'ils allaient mettre l'Irlande à genoux parce qu'ils y avaient intérêt. Que fait Madame Merkel ? Elle laisse faire. Soyons clairs, tant que l'Allemagne continuera à fonctionner au contre-courant des autres pays européens au sein de l'Europe, il n'y a aucune chance que l'Europe adopte un protectionnisme régionalisé. Et j'ajouterais qu'un protectionnisme uniquement centré au niveau de la France est une absurdité totale. Voilà pour un point qui est un fer de lance du programme du Front National. Donc c'est irréalisable, mais comme cela plaît à l'oreille du peuple, on le dit. Et comme on n'a en face aucun journaliste qui dit « arrêtez de dire des stupidités, c'est impossible », la chose passe, on l'écoute et elle rentre dans l'oreille des gens. C'est en ce sens très clairement que le discours mérite d'être qualifié de « populiste ». On dit au peuple ce qu'il a envie d'entendre et non pas ce qui est la réalité.
Bonsoir Monsieur Le Pen.
Bonsoir.
Président du Front National.
Mais oui.
Vous êtes coquet ou pas ?
Oh oui, tout à fait. Moi je suis un le plus beau possible, si j'ose dire. Je ne suis pas du tout complexé, mais j'ai de l'acné juvénile depuis 20 ans. Ça me rajeunit.
Alors, les dossiers compliqués.
Comment ?
Pas simple.
Comment ?
Compliqués.
Bon.
Est-ce que vous feriez très différemment si vous étiez sans papier ?
Ce sera le thème central.
Je considère que l'immigration est formidable parce que moi, je suis un clandestin.
Vous considérez que Nicolas Sarkozy empiète sur un j'allais dire presque un...
Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette.
C'est aujourd'hui, pardon.
Comment oui.
Où en êtes-vous ? Que faites-vous ?
Moi, j'ai tué 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Tant mieux, j'ai tué des enfants après les avoir violés. Mais je crains. Et alors, c'est scandaleux. Moi, j'ai proposé de massacrer les vieilles dames dans des hôtels et de terroriser certains quartiers avec Jacques Chirac. il faut téléphoner des menaces à Ségolène Royal. Voilà. Bon. Et il faut taguer les murs du squat.
Bon, alors une autre idée qui me semblait drôlement intéressante dans ce que peuvent dire les gens du Front National, c'est qu'on s'est bien fait enfler quand même avec l'euro. Hein, on a perdu, disons, entre un tiers et un quart de notre pouvoir d'achat. Et si on revenait au franc, Michel ?
Revenir au franc ou rester à l'euro, c'est un faux problème. Le gros intérêt de l'euro, et la raison pour laquelle on l'utilise comme bouc émissaire en ce moment, c'est que c'est la seule chose européenne que les Français ont dans leur poche. L'euro a quand même eu une certaine utilité, puisqu'elle a évité un certain nombre de crises de dévaluation, de crises financières et de crises de crédit dans un premier temps. Le seul problème, et la chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'une monnaie n'est qu'un instrument. Ce n'est pas, ce n'est jamais une fin en soi. Or, on a mis en place la monnaie unique européenne, mais on l'a mise en place avec des critères extrêmement contraignants pour plaire à l'Allemagne et qui, sur le plan économique, sont une absurdité totale. On a créé, pour gérer cette monnaie, une banque centrale européenne qui a un statut d'indépendance que même le fonds fédéral américain n'a pas et qui est d'une indépendance exorbitante. Et enfin, cette banque centrale européenne n'a qu'un objectif de protection de la valeur de la monnaie. C'est normal, l'Europe a été construite au profit des rentiers et le rentier qui accumule du capital ne veut pas que l'inflation fasse perdre de la valeur à son capital. Mais ce qui est encore plus grave, et on en revient au protectionnisme, c'est que la Banque Centrale Européenne n'a aucune politique de change. Or, nous sommes confrontés à deux autres géants internationaux. La Chine, qui, elle, a un objectif de change très clairement affiché, je m'accroche au dollar, je me mets systématiquement 40% en dessous, et grâce à ça, je vends mes produits aux Américains et j'inonde le marché de produits dont les prix sont sous-évalués parce que ma monnaie est sous-évaluée. Et nous avons en face, et on l'a vu très clairement à propos de la crise, des gens comme les Américains qui ont toujours dit « le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème » et qui l'ont très clairement démontré. Que font les Américains face à la menace chinoise ? Ils laissent filer le dollar sans complexe, en se disant, avec un dollar qui certes a une valeur moindre par rapport à l'euro par exemple, grâce à ça les produits américains sont moins chers, ils concurrencent les produits chinois et ils enterrent littéralement un certain nombre de produits européens sur les marchés extérieurs et donc nous augmentons notre compétitivité. Tenir un discours sur l'euro fort aujourd'hui est une absurdité et un suicide économique compte tenu de l'attitude des deux autres géants. Mais l'Europe, parce que l'Allemagne et seulement l'Allemagne a intérêt à ce que l'euro reste fort, continue sa politique d'euro fort. Et je pense que nous mourrons guéris.
CAC 40, oui!
Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Président a demandé hier aux Allemands de clarifier leur potion sur le nuque, Jean-Marc.
Oui, alors le dos est sans doute plus compagne. La France est sans doute aujourd'hui le pays au monde le plus pétant pour les comptes. L'Allemagne, elle, pour des raisons hystériques, elle a choisi le troll à peu près propre, capable de faire la totalité avec les Allemands, parce que il y a très vite.
Mesdames et messieurs, en ces circonstances exceptionnelles, je veux le dire aux Français, Angela Merkel a démoralisé les classes moyennes, Angela Merkel a trahi les consommateurs. Je redis donc, Angela Merkel branle les millions de petits épargnants dans le monde, avec quelle force, sans que personne ne s'en aperçoive. Je veux le dire aux Français, dont la vie n'est déjà pas facile quand il n'y a pas la crise, mais dont la vie devient insupportable quand Angela Merkel peut partir avec un parachute doré. Est-il besoin d'ajouter que dans la situation actuelle, Angela Merkel, qui aurait la rigidité d'une religion, est la principale menace de tous les Français.
La prison avec sursis pour Jean-Marie Le Pen. 5 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende. Le président du Front National est condamné pour...
Si par hypothèse, Monsieur Le Pen, votre boule est un peu opaque,
oui.
Elle est rouge ici.
Et oui, moi je suis tout petit
petit, mais shit, si vous voulez, sans que ça n'ait fait dresser la n'est-ce pas? Bon. Personne n'a rien à craindre de moi. Je suis cool. Très cool. Chers compatriotes, aujourd'hui, c'est un véritable appel au secours que je vous lance. Là, c'est la catastrophe. Pour nous, c'est un véritable désastre. Politique et financier. Nos candidats n'ont obtenu que 4 voix. C'est décevant. C'est pourquoi je vous lance cet appel au secours. Donnez. Donnez. Donnez 25 000 euros. Donnez, je vous en conjure, pendant qu'il est encore temps. Merci d'avance. Donnez. Je suis brisé et ruiné. Donnez. Je m'en souviendrai. Donnez, je vous en conjure, pendant qu'il est encore temps. Merci d'avance. T'as pas 100 balles?
Comment?
T'as pas 100 balles?
Pourquoi? Parce que les caisses sont vides?
Oui. T'as pas 100 balles? Proposons-nous d'abord la peine de mort pour le Front National. T'as pas 100 balles?
Non.
Putain, écoutez, là c'est la catastrophe. Le Front National va disparaître. Je suis un sous-chien, comme on dit aujourd'hui.
On enterre Jean-Marie Le Pen.
Oui, nous allons enterrer le Front National demain matin.
C'est très bien.
C'est comme cela. J'ai un site qui est www.lepenmoratoire.fr.
Toujours avec Michel et André, on parle d'extrême droite, de Front National et d'économie. Est-ce que tout cela est bien compatible? La suite avec toi, André.
Moi, je veux revenir sur l'Europe, parce qu'en gros, le constat est le suivant. Nous sommes dans un système impossible, absurde et très dommageable à l'économie, à la société, à la politique en France, mais nous n'y pouvons rien. Le Front National se distingue des autres partis, en gros, sauf peut-être du discours de Mélenchon, qui lui aussi a la prétention de pouvoir changer quand même les choses, de pouvoir avoir une action sur les choses, qui est le propre de la politique. Les seuls partis qui vaillent, c'est les partis qui disent « je vous propose quelque chose de façon à pouvoir contrôler notre destin ». Mélenchon, comme le Front National, dit « voilà, nous faisons de la politique pour changer les choses, si c'est pour laisser les choses en l'état et pratiquer, comme tu disais, la courageuse politique du chien crevé au fil de l'eau, c'est pas la peine, faut rester à la maison ».
Vendre des enclumes à la sortie du métro dans un parapluie.
Voilà, à la sauvette. Hein, et refermer le parapluie et se sauver quand la police arrive. Bon, soyons sérieux. Effectivement, la politique, c'est essayer d'avoir un moyen. Là, la réflexion politique devrait être comment modifier, comment changer les donnes, la donne, changer les choses. Alors évidemment, les forces qui sont en présence sont considérables, bien sûr. Il est complètement illusoire de dire, bon, c'est simple, il suffit d'eux, il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à. Non, c'est pas si simple que ça, évidemment. Nous sommes enfermés dans un contexte économique, financier, qui est extrêmement puissant. Ces gens-là verrouillent tout, de façon à contrôler les choses. Et pour l'instant, nous avons une archi-domination du grand capital financier, bancaire, sur le destin des gens. Et c'est un système totalitaire. Les gens avaient peur du totalitarisme soviétique. Laissez-moi rire. En fin de compte, un train peut en cacher un autre. On a échappé au totalitarisme soviétique pour tomber dans un totalitarisme non moins abject, non moins terrible. C'était le totalitarisme de la banque, de la finance, qui écrase les gens de façon et qui, en fait, leur interdit tout espoir, toute perspective. Donc il faut sortir de là. Donc les seuls projets politiques qui vaillent sont les projets politiques qui prétendent essayer de sortir de ces situations-là. Sinon, c'est pas la peine, effectivement, faut faire autre chose. Bon, or, il est possible peut-être d'imaginer autre chose. Et évidemment, bon, nous, depuis, allez, de 30 ans, quoi, on s'est enfermé dans un système comme ça, et tout ce qui s'est construit en Europe en particulier a été pour accompagner, favoriser la réaction ultralibérale dans le monde entier. Bon, ça a commencé en Angleterre, ça s'est avec Thatcher, ça s'est poursuivi aux États-Unis avec Reagan, Bush, etc.
C'est les années 80.
Ben oui, bien sûr, c'est les années 80. Et chose curieuse d'ailleurs, en France, la gauche arrive au pouvoir au moment où triomphe cette idéologie ultralibérale, anti-État, anti-impôt, anti-tout, etc. Et malheureusement, la gauche cède. Enfin, les socialistes cèdent totalement à cette mode et à ce discours, à cette analyse, et lâchent toutes les digues. Et maintenant, ils disent qu'on ne peut plus revenir en arrière. Alors bon, c'est une politique de gribouille, ça.
À l'époque, ils se sont dit qu'ils l'ont fait par réalisme, parce que sinon, on allait dans le mur, parce que Mitterrand, c'était rigolo 5 minutes, mais enfin...
Nous avons mis une croix sur la politique de rupture. Voilà comment ils traduisaient, à l'époque, leur reniement sur le plan idéologique et politique. Nous n'allons plus rompre avec... Bon...
La politique engagée depuis le mois de mai 1981 est-elle bonne pour la France ?
Le tournant économique du septennat de François Mitterrand a déjà eu lieu avec la mise en œuvre de la politique de rigueur depuis juin 82.
Bonsoir à tous. On réunit ce soir sur le plateau d'Apostrophe en direct trois intellectuels et un chef d'entreprise. En mai 68, ils avaient 20 ans. En mai 86, ce sont des quadragénaires où on passe de lettres. Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. Cette publicité dit ceci. En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Cesser avec tes enfantillages, André. Ces gens-là ont agi comme des adultes.
Non, attends, je pense qu'il faut parler les innocentés comme ça si facilement que ça. Enfin, ils ont une histoire, ils sont socialistes. Bon, certains mauvais esprits diront qu'ils ont déjà trahi plusieurs fois dans l'histoire, etc. Mais admettons même qu'on efface l'éponge et qu'on les prenne en 81, ils sont socialistes. Lorsqu'ils font leur congrès à Épinay en 73, 72, je crois plutôt, et ils prétendent avoir rompu avec les affreuses pratiques de la SFIO, pratiques opportunistes, pratiques sans principe, etc. Et en fin de compte, que font-ils 10 ans après? Ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils s'assoient sur l'espoir sur lequel ils ont été élus. Parce qu'il y a des gens qui les ont élus comme des socialistes, comme des gens de gauche. Et ils s'assoient dessus complètement. Ils nous plongent, littéralement, au nom de l'Europe, des grands sentiments, de l'Europe des nations, etc. Ils nous plongent dans un système où on a les pieds et mains liés, on ne peut plus changer notre fiscalité, on ne peut plus changer, on est obligé de s'aligner sur le Bangladesh, etc. Mais ils ont des comptes à rendre quand même, bon. Et effectivement, ils les rendent. Et le Front National leur met le nez dans le caca. Il est facile de dire, salauds de pauvres, connards de pauvres, qui vont voter Front National après avoir voté communiste ou socialiste. Mais enfin, qui souffre? Qui est dans la merde actuellement? Par les bobos qui sont passés à l'ENA ou à Sciences Po, etc. Et qui usent leur fond de culotte dans les ministères. C'est pas ces gens-là. Les gens qui souffrent, c'est la classe ouvrière, ce sont les travailleurs, les employés. Ces gens-là souffrent atrocement. Et on leur dit, bah oui, peut-être dans quelques années, la Bulgarie sera à notre niveau. Si tout se passe bien, si l'Europe continue dans sa voie harmonieuse, on va aligner les pays les plus pauvres d'Europe sur le niveau européen. Pendant ce temps-là, mais qui souffre ? Et ces gens qui souffrent, ben, ils expriment leur colère. Certes, c'est une façon bête, stupide de manifester sa colère que de voter pour la droite, pour échapper à la droite. Bon, ça fait idiot. Mais moi, je mettrais pas au même titre les gens qui les trompent. Et ces gens qui sont trompés, je ne les mettrai pas au même niveau, je ne les mettrai pas dans le même sac. Il est facile d'être intelligent, de voir le danger de l'extrême droite, anti-humaniste, etc. Mais l'humanisme, pour des gens qui sont pauvres, ça n'a pas de sens. L'humanisme, les grandes idées, les lumières, le 18e siècle, la raison, le rationalisme, c'est très bien, j'adhère à ces idées. Hein. Mais je dis que vouloir que ces idées empêchent le pauvre de voter pour la révolte, parce qu'ils pensent voter pour la révolte. Bien sûr que c'est une politique de gribouille. On sait bien qu'ils se flanquent à l'eau pour ne pas être mouillés par la pluie, comme Gribouille de la comtesse de Ségur. Mais enfin, peut-on les mettre en cause? Non. Alors bien sûr, il y a pas que des ouvriers qui votent et des employés qui votent Front National. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils sont écœurés, et comment ne pas l'être, par la politique d'une certaine gauche. Depuis 81, on ne les fera plus voter à gauche. En tout cas, pas pour cette gauche-là. Qui a, en fin de compte, effacé les frontières entre la gauche et la droite? Qui a provoqué la confusion politique dans laquelle se trouve actuellement l'électorat français?
Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite.
C'est, mais qui? Ben, les gens qui ont fait des politiques de droite avec l'étiquette de gauche. Ce sont ceux-là les responsables. Lorsque ce pauvre Jospin a été boulé aux élections, j'entendais des électeurs socialistes, des militants socialistes dire « Oh, les comptes travailleurs, les comptes pauvres ont été votés, etc. » Mais enfin, qui était responsable de ce vote aberrant, absurde, etc. Si ce n'est la social-démocratie elle-même.
Il est bien dispersé le peuple de gauche. Hein ?
Moi, vous savez, j'ai une pensée simple. Que moi, j'ai toujours considéré que, comme je le dis, c'est un fait.
D'abord, je crois qu'effectivement, il faudrait retrouver une identité de gauche qui a été un petit peu quand même délayée, dévoyée par le Parti Socialiste, il faut bien le dire.
Hein. Marine Le Pen, qu'il faut supprimer le Front National.
Ah non, c'est pas ça. Il faut surtout valoriser la haine. Je suis d'une brutalité que je crois pas un Français n'imagine même. J'ai jeté des pierres sur une de vos consoeurs qui a eu le crâne ouvert.
Est-ce que les profs sont au niveau de l'école ou pas?
Moi, je crois que les profs sont mauvais. Il faut juste les abandonner. La preuve, d'ailleurs, c'est que les enfants qui sortent de CM2 sont communistes. Rien de très extraordinaire.
Quelques auditeurs vous attendent, là, Marine Le Pen.
Alors, allez-y. Fabrice...
Moi, je vous trouve honnête, intègre et courageuse.
Non, mais n'importe quoi. Non, c'est faux.
C'est faux. Ah bon, c'est faux.
Non, c'est faux. J'appelle tous nos auditeurs à aller sur mon site de campagne. Marine Le Pen 2012, vous cliquez sur Pipo Gogo. Et vous allez voir que moi, je suis pour le démantèlement de tous les immigrés. C'est des paresseux.
Mais non.
Mais si, systématiquement, et c'est un véritable scandale. Tous les bagayoukos, ils veulent pas travailler. Ils sont désassistés. Stop. Bon. Mais pour ça, il va falloir aussi, qu'est-ce que vous voulez, arrêter les Français. Tous les Français, quels qu'ils soient, méchamment...
T'es une catastrophe.
Oui.
Cette femme est bien plus dangereuse que son père.
Bien sûr que oui. Moi, je suis en réalité insupportable. Je suis une poule grasse, voilà. C'est la grande différence qu'il y a entre le Front National et les autres partis politiques.
Marine Le Pen, merci.
Pipo, gogo.
Ce qu'il y a de bien avec les idées du Front National, des fois, Michel, c'est que c'est facile à comprendre. Autant de millions d'étrangers... Autant de chômeurs virons les étrangers, ça fera du boulot pour les pas étrangers de souche.
C'est du calcul simple, simplissime, mais très efficace. C'est l'habile façon de glisser de l'économique au social et de prétendre apporter à un problème effroyablement complexe des réponses incroyablement simple, facile à comprendre et totalement absurde dans la réalité. Il faudrait quand même rappeler que, tout d'abord, des étrangers qui travaillent en France, quand ils ont un permis de travail et qu'ils ont un contrat de travail, ils ne peuvent être recrutés par un patron que si le patron a déjà mené en France et qu'il le prouve une démarche de recherche d'emploi et qu'il a démontré que cet emploi n'avait pas pu être pourvu par un Français. Première chose. Secondo, du travail clandestin. Bien sûr, il est vrai que malheureusement, un certain nombre d'étrangers habitant en France pratiquent le travail clandestin. Faudrait quand même rappeler que le travail clandestin est fourni à 80% par de bons Français, à commencer par des salariés d'artisans qui, le week-end, avec le matériel prêté par l'entrepreneur, font des chantiers à droite et à gauche, donnent des coups de main et se font payer en liquide pour ça. Donc, on a une vision simpliste, mais surtout l'énorme avantage, c'est qu'on trouve un exutoire et un bouc émissaire, on trouve une réponse très, très simple. De même que le pétainisme avait trouvé une explication très simple à la défaite française, la politique des socialistes et les francs-maçons. Ah, évidemment, ça, c'était une politique très simple. On rajoutait, excusez l'expression, je ne fais que la citer, la juiverie internationale, et on avait le tableau total. Aujourd'hui, on va remplacer les juifs par les musulmans. Et surtout, on veut faire croire que la partie minoritaire, visible, extrémiste des personnes qui sont de culture musulmane représente un ensemble incroyablement complexe dans lequel se trouve un grand nombre de musulmans laïcs qui se considèrent comme non représentés car ils n'ont jamais la parole. Mais vous observerez que le premier à avoir facilité les choses sur ce plan est un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy, quand il a décidé de créer un conseil français du culte musulman. Les gens de culture musulmane, mais totalement laïque, sont montés au créneau pour dire « Et nous, nous avons peut-être des choses à dire, mais personne ne veut nous écouter. » On a voulu se concentrer sur un problème cultuel, on a fait exprès de le concentrer sur un problème cultuel, tout simplement parce que l'idée est bien, elle a été affirmée par le Front National, que il y a des cultures qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, pratiquons le communautarisme, ainsi les cultures ne se mélangeront pas, les minorités resteront des minorités, et la France traditionnelle, croyante, catholique, de droite, conservera et préservera ses avantages acquis et ses structures sociales. Le seul problème, c'est que ce communautarisme, il a été également revendiqué par un certain Nicolas Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir, et il a bien essayé de le mettre en place. Pour l'instant, il faut reconnaître que ça marque le pas. Mais tout un discours a pour but, comme dans la stratégie de l'extrême droite, de trouver un bouc émissaire, car ce bouc émissaire est la solution de tout. En 1933, Hitler offre aux Allemands une merveilleuse explication de leur défaite, de la misère économique qu'ils viennent de se farcir et du chômage qu'ils ont subi. Tout est de la faute des Juifs. On racontait une petite histoire qui se racontait malheureusement entre Juifs en 1935 en Allemagne. C'est un ouvrier qui, avec un autre ouvrier, le vendredi soir, va boire une bière à la taverne du coin après avoir touché sa paye. Et puis, en discutant avec l'autre, cet ouvrier lui dit « Tu vois, je trouve que pour que les choses aillent mieux en Allemagne, il faudrait tuer tous les Juifs et tous les cordonniers. » Ah, dit l'autre, ça c'est une idée pas bête. Puis il regarde son comparse et lui dit « Mais pourquoi tous les cordonniers ?» Voilà à peu près l'état dans lequel on veut mettre la France aujourd'hui. On veut dresser les Français les uns contre les autres, tout simplement parce que ça permet d'évacuer la réponse nécessaire à un certain nombre de problèmes politiques. On n'a pas de réponse politique, donc pour ne pas être contraint d'apporter une réponse politique, on veut installer socialement le désordre et la division. Je rappelle que le rôle d'un président de la République, à la base, normalement, c'est de rassembler les Français.
La voix off et Polémix.
Polémix, ça, vous adorez ça et vous vous frottez les mains.
C'est réalisé avec trucage.
J'accueille Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, vous êtes particulièrement inhumaine.
Oui.
Et vice-présidente du Front Scrogneux.
Oui, parce que je suis immonde. Je veux dire, c'est horrible, quoi.
Vous avez poussé votre père, Jean-Marie Le Pen, à boire pour le tuer et pour hériter.
Oui, mais et alors ? Ça n'a pas changé grand-chose, très objectivement. Par conséquent, mon père a pris un petit garçon d'un an, l'a mis dans un tiroir et l'a oublié. Bon.
Alors que votre père, vous dites qu'il a éventré vos deux sœurs.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il nous a élevés dans l'idée de la mort la plus violente.
Alors là, vous réalisez d'un seul coup, à l'âge de 8 ans, que votre père est nazi quand même.
Oui, je me rends compte que je suis la fille d'un homme parfaitement inadmissible. Cette espèce de monstre, j'ai compris après qu'il éventrait les petits-enfants et je pense que dans toutes les familles, ça peut se passer comme ça. C'est vrai que éventrer les enfants, c'est pas si dramatique que ça. C'est une bonne leçon de vie, je trouve.
Ouais. Alors, comme votre père pose habillé en soubrette dans Playboy...
C'est Maurice, oui, je vous cache pas.
Vous commencez à avoir une vraie relation avec lui.
Oui, c'est vrai que le côté rire graveleux, on ouvre le Playboy, on est très intime. Bon, c'est super rigolo.
Et là, vous, il vous explose avec vos deux sœurs. Pourquoi ?
Ben parce que j'ai compris après qu'il était un danger, effectivement, éminemment destructeur. Et encore aujourd'hui. Il a intégralement éventré ma mère. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Je pense que ça arrive dans d'autres familles.
Ça la fout mal quand même, quoi.
Ouais, ça la fout un peu mal.
Alors, pendant deux semaines, vous allez boire.
J'ai pris un jour de la drogue très dure. Ouais. C'est au moment de l'attentat de la rue Copernic. Les copains arrivaient, ouais. Ils partaient jusqu'à 4h du matin pour refaire le monstre, encore une fois, qui fait peur aux petits-enfants. Ils ne savaient jamais combien on serait à dîner. Ma mère faisait des pâtes pour la terre entière. Bon.
Alors, en 1991, vous devenez homo et immigré en situation irrégulière.
Oui, je me suis inscrite.
Ouais.
Jean-Marie Le Pen, qui a eu son premier rapport sexuel et oups, qui a oublié sa pilule, je pense que c'est un mythe.
Il est dit des champs nazis. Son grand pote, c'est Léon Gauthier qui était dans la Waffen-SS. Enfin, je veux dire, ce type est un nazi.
Non, mais très probablement, c'est dommage. Je suis malheureuse, ouais. mais voilà, c'est la merde. C'est terrible. Moi, j'ai tellement honte. Je vais partir au pôle Nord, je sais pas.
Voilà les amis, c'est ici la fin de la diffusion de cette émission diffusée pour la première fois en 2011. Suite de cette spéciale programme économique du Front National avec Michel et André au prochain épisode. En attendant, il y a plein d'autres émissions qui vous attendent sur polemixetlavoixoff.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G 101.5 FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews.